Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. La Chine a annoncé l'annulation de la dette des pays africains ayant atteint la maturité et la disponibilité des 60 milliards de dollars américains d'investissement. D'après Léonard Cheikh-Oukitundu, ministre des Affaires étrangères, la part de la RDC sur les 60 milliards de dollars annoncés par la Chine pour l'Afrique sera investie en priorité dans les projets intégrateurs, dont la construction du grand barrage d'Inga. Alors, comment commentez-vous cette affaire? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Notez que vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes déjà nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets soumis au débat. Héritier Sidiakala assure la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay et Pierrot et Lameji sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ses magazines est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
C'est toujours un plaisir de retrouver le professeur Boabois Kayembe qui a accepté notre invitation aujourd'hui. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, je l'ai dit tantôt, nous sommes très heureux de vous revoir pour une seconde fois dans cette émission Parole aux auditeurs et surtout en ce qui concerne la question économique parce que vous êtes un expert en économie et professeur des universités. D'entrée de jeu, quel regard portez-vous sur ce sommet, le 7e qui a été organisé?
Bon, c'est un regard... on peut dire positif, dans ce sens que les pays africains sont à la recherche des financements, sont à la recherche des technologies pour développer des projets sur le continent africain. Donc un pays qui se dispose à être attentif au problème de l'Afrique, ça ne peut qu'être intéressant. Donc, c'est un bon regard.
Alors, les niveaux aujourd'hui, parce que l'aide que la Chine vient d'annoncer des 60 milliards ne concerne que le pays qui a atteint un niveau de maturité d'investissement. Alors, comment commentez-vous par rapport à notre niveau, nous, la RDC, notre niveau des investissements à ce jour? Parce que vous avez été aussi numéro un de la NAPI à un certain moment.
Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est difficile à dire quel niveau nous avons atteint sur
est-ce que le chemin d'investissement.
On pourrait dire quand même que oui, bien sûr, mais que nous avons encore beaucoup de problèmes, nous avons encore du chemin à faire, notamment par rapport à ce qu'on appelle le climat des affaires. Vous savez que notre climat des affaires est quand même... je ne dirais pas contrarié, mais affecté par des problèmes de tous ordres, notamment des problèmes d'infrastructure, des problèmes politiques et autres. Je pense que en ce qui concerne le projet d'Inga, on peut dire que nous avons atteint cette maturité, pour Inga particulièrement, parce qu'il y a une structure qui a été créée au niveau de la présidence de la République, qui est en train de piloter ce projet d'Inga. Je pense que cette structure a fait...
Qui, à un certain moment, il n'était même plus à l'odeur de sainteté avec la Banque mondiale, qui avait décidé d'ailleurs d'arrêter avec ce projet.
Bon, voilà. Donc, c'est ça. Mais cette structure, je pense qu'elle a pu quand même faire le travail préalable qui était nécessaire pour pouvoir, mettre ce projet... au niveau où on peut comprendre bien de quoi il s'agit et comprendre les différents aspects de ce projet. Donc je crois que ce projet aujourd'hui peut être considéré comme à niveau, mais sinon les efforts pour le climat des affaires se poursuivent d'ailleurs. Et vous voyez que le processus électoral est en train d'évoluer dans notre pays pour aller vers les élections. Et là, ce sera déjà une grande conditionnalité qui sera remplie pour être au niveau d'être considéré comme un pays qui peut absorber ces investissements chinois et d'autres problèmes liés.
Alors, à part le barrage d'Inga, la construction du barrage d'Inga, quel autre projet intégrateur qui peut intéresser d'ailleurs cette aide?
Bon, le barrage d'Inga, c'est déjà un projet, un méga projet. On a parlé en certain moment de 15 milliards de dollars qui étaient nécessaires pour faire le projet d'Inga. Mais il faut dire aussi que il y a plusieurs projets d'Inga à l'intérieur du projet d'Inga. Et si on devait commencer, ça prendrait beaucoup de temps. Ça prendrait jusqu'à 10 ans, 15 ans, etc. On ne peut pas être là, croiser les bras, dire que nous n'attendons que Inga parce que le temps que ça va mettre, à ce moment-là, il faut aussi penser à autre chose. Mais je pense que essentiellement, il s'agit de projets, notamment des infrastructures. Notamment infrastructures routières. Si on arrivait à faire une bonne route qui partirait de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, ce serait déjà beaucoup. Et si on faisait une bonne route qui partirait de Mbujimayi ou bien Kananga jusqu'à Kindu et puis à Kisangani, ce serait beaucoup. Et on peut envisager aussi de poser le chemin de fer. Vous savez que les pays de l'Afrique de l'Est ont conçu un projet de chemin de fer qui va du Kenya, passant par l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud. Et ce projet-là peut concerner la RDC. Donc, ce chemin de fer peut être poursuivi jusqu'à Ituri ou bien à Kisangani. Donc, il y a tous ces projets d'infrastructures routières, infrastructures ferroviaires et autres, ce sont des projets intégrateurs pour permettre à l'économie congolaise de tourner, parce que sans infrastructure, ça ne fonctionne pas. Mais je peux parler également des projets dans le domaine industriel, particulièrement dans le domaine agricole, comme le projet qui existait ici où se trouve Radio Okapi dans le temps. Donc, ce projet de...
Initié par Banque de Crédit Agricole.
Non, qui existait ici à Utex Africa. C'était une usine textile.
Textile, voilà.
Pour développer un pays, il faut impulser le projet textile.
Vous parlez de Texaco ou Texaf?
Oui, ce type de projet, il y en a 3 ou 4 dans le pays. Ça absorbe une grande main d'œuvre et ça permet aussi de développer notamment l'agriculture, donc la culture du coton qui était pratiquée au Congo avant l'indépendance. C'est vraiment un projet intégrateur. On peut aussi parler des zones économiques spéciales. Il y a des pays qui demandent à la Chine, j'ai bien suivi, par exemple le pays en face, demande à la Chine de pouvoir l'aider à développer les zones économiques spéciales. Ces zones-là économiques spéciales, ce sont des projets intégrateurs parce que ça permet de développer notamment l'agriculture, développer l'exportation et créer des emplois, etc. Bon, voilà.
Mais le gouvernement Matata 2 avait initié des zones économiques. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que cela a produit comme effet sur les terrains?
Bon,
est-ce que c'était un problème de financement? Est-ce que c'était un projet qui a été mal réfléchi, analysé en amont? Parce que nous avons vu des tentatives à Maluku ici, déjà, avec la construction des écoles à Maluku, notamment avec ces projets des zones économiques. Mais finalement, silence radio quelques temps après.
Bon, je crois que c'est chaque fois que vous faites un projet, que vous êtes en difficulté avec les partenaires, comme la Banque mondiale et autres, vous êtes en difficulté, vous ne comptez que sur les partenaires, à ce moment-là, le projet va s'arrêter. Et l'intérêt des financements chinois, c'est de dire que la Chine ne met pas de conditions économiques ou de conditions politiques draconiennes pour décaisser ces financements. Donc, avec la Chine, ça va rapidement. Et je crois que c'est ça l'intérêt de cette coopération.
On sait tout de même que cette coopération repose également sur un échange avec des matières premières de pays comme le Congo, par exemple. Nous avons vu les 5 chantiers qui étaient un projet ambitieux, mais en tournant, je ne pense pas que la Chine s'est comportée en Croix-Rouge ou en aide humanitaire.
Non, ils viennent chercher les matières premières, bien sûr. Hein, là où il y a les matières premières. Lorsqu'ils font quelque chose avec l'Angola, ils cherchent le pétrole. Lorsqu'ils font quelque chose avec la RDC, ils cherchent les minéraux.
Congo-Brazzaville, autant avec le pétrole.
Congo-Brazzaville et tout ça. Mais lorsqu'ils font quelque chose avec le Burkina Faso ou bien le Sénégal, ils ne demandent pas cela. Ils demandent autre chose. Donc il y a moyen de... Ou bien avec le Nigeria. Il y a moyen de pouvoir calquer cette coopération sur ce que la Chine a fait dans d'autres pays comme l'Éthiopie et autres, où ils investissent beaucoup. Ils investissent beaucoup en Chine et dans le domaine industriel. Il y a moyen de s'inspirer de ces expériences-là dans d'autres pays pour les appliquer dans notre pays.
Alors, nous avons suivi le président chinois lors de son discours à Johannesburg, d'ailleurs, les sommets préparatifs de ces grands sommets qui Chine-Afrique, a dit pratiquement c'est ce qu'il a répété au 7e sommet, la question de la promotion de sécurité dans cette coopération. Mais ce n'est pas les tableaux, en tout cas pour certaines personnes, qu'on voit actuellement en Afrique. Si nous citons les cas, par exemple, des Zimbabwe aujourd'hui, et c'est vrai, on évoque la sécurité, on veut faire taire les armes, mais ce qui s'est passé au Zimbabwe prouve à suffisance qu'il y a vraiment la Chine, la main de la Chine, et parce que c'est un problème d'intérêt.
Oui, évidemment, la Chine cherche son intérêt, même là où il n'y a pas de sécurité. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'au Zimbabwe, il y a vraiment de grands problèmes de sécurité pour aujourd'hui. Non, je crois qu'ils ont pu bien s'en sortir, organiser des élections, et puis la situation est redevenue calme. Mais j'ai dit ici que pour nous mettre au niveau où nous pouvons absorber ces financements, il faut aussi régler des problèmes politiques, des problèmes sécuritaires qui se posent dans notre pays. Sans la sécurité, personne ne peut aller mettre son argent là où une rébellion peut venir tout détruire, etc. Donc il faut arranger la question de la sécurité.
Professeur, donc nous retenons, professeur Bobo Kayembe, nous retenons que la RDC aujourd'hui a atteint quand même un niveau de maturité en ce qui concerne les investissements, en tout cas une maturité disons possible ou encore acceptable pour absorber ces financements annoncés par la Chine lors du sommet à Chine à Afrique. Mais il va falloir, selon vos propos, qu'elle puisse être investie notamment dans le projet de réunification du pays par la route. Les infrastructures routières donc pourraient constituer la priorité des priorités. Merci beaucoup, professeur. On va revenir à vous. Le temps d'ouvrir les standards, en fait, d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Une histoire, un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteur de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h15.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Honorable Odiane, vous êtes à Isiro, bonjour.
Bonjour mon frère et bonjour au professeur Boaba Wakayele.
Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup. Je crois que j'ai rejoint le professeur sur le point des infrastructures routières. Et deuxièmement, j'ai rejoint également le ministre sur le plan des infrastructures énergétiques, mais pas à investir dans les barrages d'Inga, mais plutôt à l'intérieur du pays. Parce que, vous savez, le pôle Est, nous avons des sérieux problèmes d'énergie électrique. Il faudrait que le gouvernement ait une politique d'investir à l'intérieur du pays pour éviter que la ville de Kinshasa ne soit complètement une ville envahie par tout le monde. Donc, il serait mieux qu'aller à l'intérieur, comme le pôle Est qui s'engagne, qu'on puisse construire un grand barrage à Kisangani parce que Kisangani a cette possibilité. Et pour que le barrage de Kisangani puisse alimenter l'Ituri, Otuélé, Nord Kivu et pourquoi pas Sud Kivu, parce que le barrage qu'on pourrait construire ici à Kisangani, notamment vers Wanyarukula, ça peut alimenter l'Est jusqu'aux pays voisins, jusque même au Soudan et en Ouganda. Et au lieu de donc d'investir tous les fonds dans les barrages Dinga, il serait tout simplement mieux.
Oui, mais honorable, je crois qu'ici, il y a quand même de noter que le 60 milliards annoncé, c'est pour toute l'Afrique. Les pays qui ont atteint un niveau de maturité dans l'investissement, il se pourrait, en tout cas ça c'est son mes calculs, se partager peut-être de 2 milliards ou quelque chose comme 3 à 5 milliards. Alors les projets Dinga notamment, qui je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, disons, est évalué déjà à plus de 10 milliards de dollars. Donc si on doit investir les 2 ou 3 ou 5 milliards même, si vous voulez, uniquement pour le projet Dinga, finalement ça va prendre tout et on ne sait pas comment compléter les déficits. Et vous proposez peut-être qu'on puisse élargir, qu'on trouve d'autres projets qui coûteraient moins que le grand projet Dinga.
Il y a deux solutions. Il y a deux solutions, soit on laisse Dinga, on investit pour notre barrage qui va alimenter d'autres coins de la République, parce que tout, donc la République ne signifie pas seulement Kinshasa. Vous savez très bien que barrage Dinga alimente plus la ville de Kinshasa et une partie du Katanga. Et deuxièmement, si ça ne tient pas avec Dinga, on investit cet argent dans les infrastructures routières. On ne peut pas vivre dans un pays comme le nôtre où les routes, où les provinces ne sont pas reliées entre elles. Ici, donc, Kisangani, Bunia, la route est devenue impraticable. Kisangani, Isiro, Bunia, Isiro, pas de route. Donc, il est mieux
voilà, donc vous,
d'investir cet argent.
Voilà, vous rejoignez donc, professeur Boboa Kayembe, l'investissement doit se faire exactement au préalable au niveau des infrastructures routières. Merci beaucoup, honorable Odiane, d'avoir appelé l'Isiro. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kati.
Quel est votre avis?
Mon avis est d'abord un avis tout à fait un peu critique. J'essaie un peu d'observer le comportement chinois dans ce que la Chine veut faire et dans son comportement des vies quotidiennes. Et vous allez remarquer une chose. Les Chinois sont des gens très disciplinés dans leur travail. Ils l'ont prouvé. Commençant par d'abord la quarantaine qu'ils ont passée avec le feu président Mao, puis après l'ouverture qui a amené la Chine vers le point où elle est. Ça veut dire la Chine a travaillé et la Chine a durement travaillé. Mais regardez de notre côté. Nous sommes allés plus dans des querelles inutiles, dans des guerres inutiles, et on a presque mis notre pays moralement à terre. Donc, nous avons maintenant une population affamée qu'on peut entraîner à gauche ou à droite.
Oui, mais Arsène, nous sommes en programme avec la Chine. Quel est l'effet que cela a produit sur le terrain? C'est que vous avez observé.
Oui, nous avons observé.
Parce qu'il y a des projets, notamment les 5 chantiers sino, avec les sino hydro et avec des routes et tout. Mais quel est votre regard par rapport à ce qui a déjà été fait dans la coopération Chine-RDC et qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui avec l'annonce de ces financements?
Merci beaucoup. L'observation est claire. Nous avons vu comment les Chinois ont travaillé chez nous. Les chantiers sont arrêtés en cours de route et tout comme ça. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord compter sur nous-mêmes. Ce que la Chine nous apporte ne viendrait comme qu'ajoute. Donc nous devons nous mettre au travail sérieusement, avoir des programmes bien établis, pas des programmes propagandistes, pas des programmes démagogiques. Il faut le sérieux dans le travail.
Merci.
Parce que tout est normatif aujourd'hui. Si vous êtes dans les normes, je crois qu'il n'y a pas un pays qui viendra, malgré ces conditions, vous faire des problèmes, parce que vous serez dans les normatifs internationaux.
Merci beaucoup. Voilà un peu ma vision. Merci beaucoup, Arsène, pour vous, en tout cas, le comportement chinois, vous avez dit, ils sont très disciplinés, mais malheureusement, cela ne se traduit pas exactement dans cette coopération avec la Chine, l'Afrique. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, cher ami JR. Bonjour aussi à l'invité, le professeur Boboa Kayembe, dont j'ai l'honneur d'échanger avec lui à la radio.
Alors, quelle est votre contribution?
Oui, JR, moi, je partirai d'abord du principe selon lequel l'intérêt est moteur de tout acte. Moi, je m'inscris en faux avec ceux-là qui disent que la Chine a octroyé 60 milliards de dollars sans condition. Non, 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 non. C'est conditionnel, parce que moi, je ne vois pas la Chine aller investir dans un pays où il n'y a pas une richesse. Nous voyons aujourd'hui, si, nous avons la Chine parce que nous avons nos matières premières, nous avons les cobalt, nous avons le fil. Ça, c'est la première appréhension. Pour ce qui concerne les 60 milliards qui sera dispatché dans les différents pays africains, moi, je pense que vous-même, vous avez dit, c'est peut-être 2 milliards pour la RDC. Et si on va focaliser, ou on doit juste focaliser cet argent pour les barrages d'Inga, ça ne suffira pas. Au moins, ils doivent investir cet argent dans les infrastructures. Imaginez-vous, nous avons aujourd'hui les chemins de fer. Moi, je vais parler de Kindu jusqu'à Lubumbashi. Ça ne passe pas plus de 2 semaines ou 3 semaines sans que nous puissions connaître des accidents. Au lieu de faire des mouvements ou de pouvoir faire échapper cet argent dans d'autres histoires, dans des magouilles, il faudrait réhabiliter des routes et des chemins de fer. Nous avons par exemple Tronçon Kisangani-Kindu. Nous avons les ponts-villes. C'est depuis 1964, avec l'avènement de Jean Scam, que ces ponts sont coupés. Alors que nous avons les Chinois qui font des transactions et ils arrivent jusque-là pour aller exploiter les matières qui se trouvent dans cette rivière.
C'est ça.
Donc là, il y a à boire et à manger et moi, je reste très circonspect avec cette donation de la Chine. C'est ça au moins ma petite occupation.
Merci beaucoup Jean-Claude. Alors on revient à vous, professeur. D'abord, réaction par rapport à ce que venait de dire honorable Odiane Dissiro et puis Arsène de Kikuit. Aussi Jean-Claude, Arsène évoque la loi aujourd'hui. Tout est normatif. Il suffit que finalement la RDC puisse comprendre quel est le rôle qu'elle doit jouer dans les développements de l'Afrique. Ça serait une très bonne chose. Alors honorable Odiane vous a rejoint pratiquement sur toutes les lignes en ce qui concerne la priorité de pouvoir investir dans les infrastructures routières. Votre réaction, professeur?
Oui, merci beaucoup. Je pense que la plupart des intervenants ont raison lorsqu'ils insistent sur les infrastructures routières, et ferroviaires et autres. Parce qu'en fait, pour développer la RDC, il faut mettre en place ces infrastructures. Et je crois que, bien sûr, on doit parler Yinga, on doit quand même développer Yinga, parce que Yinga, il y a une consommation qui existe déjà. Il y a des consommateurs qui existent déjà. Mm-hmm. C'est-à-dire les consommateurs de Kinshasa, les consommateurs de
l'Afrique du Sud,
du Katanga, donc dans le domaine minier, et puis l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Pour mettre en place un grand projet, il faut aussi faire une étude qui montre la consommation possible de l'énergie qui va être produite. Mais je pense quand même que le Congo ne peut pas être développé sans infrastructure. Donc ce qu'a dit l'honorable Odiane est tout à fait vrai. Mais dire qu'on doit laisser de côté Yinga, je ne pense pas. On peut faire plusieurs choses
construire,
à la fois.
Construire un autre barrage, par exemple, à Kisangani, oui, pour desservir, au fait, la partie est.
Oui, parce que Yinga, je pense que l'énergie d'Yinga n'ira pas à Kisangani, hein, mm-hmm. n'ira pas en Ituri. L'énergie d'Yinga ira à Kinshasa, au Katanga. Mais alors, il faut trouver une solution pour les gens de Kisangani et les gens de Ituri et autres. Il faut trouver ces solutions-là. Donc, on peut y aller avec deux ou trois.
Parce que le barrage de Katende, les travaux piétinent encore, ça fait des années. Bon, c'est vrai que les travaux sont très avancés du côté de Kakobola, parce que Bandunduville, et qui est en face d'ailleurs de la distribution. Mais bon, si on mettait des zones économiques, comme les poules, par exemple, au niveau avec des barrages, ça va quand même résoudre une bonne partie des défis de développement.
Donc, il a raison, et je crois que lorsqu'on va à des sommets comme celui-là, il faut faire des réunions préalables, il faut réunir les experts et pour savoir ce qu'on va leur dire exactement, et avoir un cahier des charges qu'on peut déposer lors de ce sommet-là. Mmh. Et donc l'honorable a raison d'insister qu'on puisse aussi avoir un regard porté sur le projet de sa province. En ce qui concerne notre ami Arsène de Kikuit, lui, il a un comportement critique. Oui, bien sûr, on doit toujours être critique, on doit toujours dire qu'il faut compter sur nos efforts personnels, mm-hmm. mais est-ce que nous avons les moyens de compter sur nos efforts personnels? Est-ce que nous avons...
Quand nous avons un budget déjà de faible budget, avec ouais. 4 milliards, c'est pratiquement impossible.
On a un faible budget, on a une querelle inutile, comme il a dit. des querelles inutiles et qui datent depuis l'indépendance. Hein. Mm-hmm. Depuis l'indépendance, on est introduit dans des querelles, etc.
Sans pourtant faire l'amalgame, professeur, aujourd'hui, parce que c'est, tout dépend, les moyens, ça s'est traduit au niveau de notre budget. Et aujourd'hui, est-ce possible de mobiliser 100 milliards comme les promettent certains candidats, par exemple, à la présidentielle? 100 milliards, pourquoi nous arrivons quand même à réaliser aussi des projets intégrateurs?
C'est juste une parenthèse que je voudrais mobiliser 100 milliards, c'est...
Comme budget?
Comme budget, non, c'est pas possible. Parce que le budget est de 5-6 milliards. On ne peut pas faire un budget de 100 milliards.
Sur 5 ans?
Non, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible aussi d'attracter des investissements étrangers pour 100 milliards sur 5 ans. Mais on peut aussi faire beaucoup de choses, hein, je crois. Il faut peut-être faire des études pour voir exactement combien on peut attirer. Parce qu'on peut attirer beaucoup de la Chine, on peut attirer de l'Indonésie, du Japon, des États-Unis. Mais il faut faire des études. On ne peut pas le dire comme ça, 100 milliards. On peut rêver à beaucoup de milliards, mais il faut des études, il faut la sécurité juridique, il faut un cadre juridique, comme vous l'avez dit, qui peut être attractif pour les investisseurs. Et c'est là que nous avons des difficultés à mettre en place.
Alors, quelle est la valeur ajoutée, professeur, de cette coopération Chine-Afrique à comparer avec la Banque mondiale qui a aussi investi à un certain moment beaucoup d'argent au travers même de la Banque africaine, avant même la création de la Banque africaine de développement?
Bon, la Banque mondiale... a investi beaucoup d'argent.
La différence aujourd'hui avec cette coopération, quand les gens tournent vers la Chine.
Mais la différence, quoi, je l'ai dit que la Banque mondiale met beaucoup de conditions politiques, de conditions économiques qui rendent finalement difficile. Ils annoncent de gros montants qu'ils n'arrivent jamais à débloquer parce que les conditionnalités sont tellement lourdes. Il faut bloquer les dépenses sociales, il faut bloquer les salaires, il faut bloquer ceci, il faut bloquer cela, il faut destiner votre budget au remboursement de la dette. Finalement, les gens sont étranglés totalement. Ils ne peuvent pas continuer. Ils ne trouvent pas les contreparties nécessaires pour poursuivre le projet envisagé avec la Banque mondiale.
Mais alors, il n'y a pas de conditionnalité, disons, au niveau de la Chine. Mais si nous devons faire juste une petite évaluation, par exemple, avec les 5 chantiers qui ont été organisés aujourd'hui à Kinshasa, les routes sont dans quel état qui était en tout cas réalisé par ces projets là dans quel état? Et même à Kindu, il y a un auditeur qui vient d'évoquer la route principale qui vient vers Kisangani, Dilolo. Donc c'est dans un état délabré. Donc c'est discutable, au fait, aujourd'hui, cette coopération. Ça n'a pas produit vraiment des effets.
C'est discutable, mais il y a quand même des choses qui ont été réalisées qu'on peut bien voir. Il y a des choses qu'on peut bien voir qui ont été réalisées. Si vous allez dans le Katanga, vous allez voir qu'il y a des routes qui ont été construites grâce à la coopération chinoise. Même ici à Kinshasa, il y a des routes qui ont été construites, je crois boulevard du 30 juin et d'autres routes, boulevard qui conduit à l'aéroport d'Indili et autres, qui ont été construites par la Chine. Donc il y a des choses visibles qui sont là, qui nous ont aidé un peu à régler certains problèmes. Mais je crois que vous savez, nous venons de l'intérieur du pays. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Nous qui venons de l'intérieur du pays, on aurait aimé que les choses commencent par l'intérieur du pays pour venir vers la capitale. Alors, il ne faut pas que les choses...
Parce qu'à la capitale, il y a déjà un existant. Il y a déjà des existants, mais de l'autre côté, c'est...
Alors, ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est ça le problème. C'est ça. Mm-hmm. Notre plan de développement, ça devrait être un plan qui part de l'intérieur du pays. On fait les choses à l'intérieur du pays. On cherche à intégrer les provinces à l'intérieur. On cherche à développer. Parce que si vous faites une route, et c'est une invitation à beaucoup de gens pour mettre des petits magasins, des restaurants, etc., de faire des champs. Tout au long de cette route, il y a l'activité économique qui va s'enclencher. Donc, c'est ça. La Chine a fait des choses qui sont visibles, c'est vrai. Mais c'est critiquable aussi, parce que c'est vrai que la Chine, dans sa coopération, les critiques essentielles qu'on fait, c'est que il n'y a pas de création d'emplois localement. Il n'y a pas d'impact sur le budget de l'État, parce que eux, ils ne payent pas les impôts. Ils ne payent pas les impôts. Ils n'emploient pas le Congolais. Il n'y a même pas de transfert de connaissances comme tel, de telle sorte que quand le projet est terminé, les Congolais peuvent poursuivre ce projet-là. Il n'y a pas de transfert de connaissances.
Ils importent même la main d'œuvre.
Ils importent la main d'œuvre. On le voit avec les Chinois et les Indiens. Les Indiens, ils créent des histoires et puis les balayeurs sont des Indiens, etc., etc. On devrait quand même être regardant là-dessus. Mais d'un autre côté, il faut finir ce projet-là. On ne peut pas dire prenez les Congolais quand les Congolais ne sont pas encore préparés, bien préparés à le faire. Mm-hmm. Donc c'est autant il y a des critiques, c'est vrai, mais et pour le moment, lorsqu'il n'y a rien à, il n'y a rien d'autres auxquels on peut se référer. Donc, on va vers cette coopération chinoise.
Merci. Alors, on va prendre Gaston qui est à Kinshasa, Deo Gracia Bounia et Félicien dans la ville-province de Kinshasa également. Alors, Gaston, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, J.R.
Quel est votre avis, Gaston?
Bon, J.R., vous savez, je devais d'entrée de J.R., hein, j'allais dire que les États doivent vivre des recettes fiscales, en principe, exceptionnellement des recettes qui pouvaient provenir de l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas chez nous. C'est pour cela l'exemple.
Oui, Gaston, on a des petits soucis. On est en train petit à petit de vous perdre là en ligne.
Allô?
Oui, allez-y, Gaston, allez-y.
D'accord. Je disais aussi que dans le monde actuel, on devrait voir, hein, on devrait exister, ça devrait exister les sommets entre pays. Et pays. Hein. Mais ces derniers temps, nous constatons qu'il y a des sommets entre tout un pays et un continent. Moi, je pense aussi que demain, on pouvait aussi attendre l'Afrique puisse convoquer un sommet où il va discuter des conditions pour les rapports qui l'initient avec.
Donc, vous parlez de la coopération sud-sud.
Non, pas sud-sud en soi, parce que moi je sais que dans le monde il y a les coopérations bilatérales qui existent, bilatérales entre États et États. Il y a la coopération par exemple multilatérale dans le cadre des organisations internationales. Mais ces derniers temps, on voit par exemple la Chine qui est un État à part entière comme la RDC convoquer un sommet où il engage en contre, disons, en l'adversaire tout un continent. Hein, tout un continent qui est l'Afrique. Au lieu de parler même de l'organisation de l'Union africaine, mais on parle de l'Afrique. Et là, c'est ça qui discute des conditions, ou ça des conditionnations, des conditions de ses affaires dans un continent. Mm-hmm. Pour cela, j'ai dit, en Afrique, on pouvait aussi demain attendre, voir des paris sommets où les États africains se mettent ensemble pour voir dans quelles conditions ils peuvent aussi donner les conditions.
Mais alors, mais où classez-vous ce qui s'est fait au niveau de la région, même de la sous-région? Parce que pour les cas, par exemple, de la RDC, nous appartenons à plusieurs organisations sous-régionales et régionales. Je crois que cette question de coopération, si du moins entre États africains, il y a ceux-là qui peuvent donner aux uns aux autres quelques appuis. Voilà, je crois qu'il y a même un rapport de force sur le plan économique. Nous ne sommes pas tous égaux.
D'accord. Là, vraiment, sans vous mentir, moi, je suis en train de voir, je sais que l'Afrique est subdivisée en régions, comme vous le dites, c'est comme le monde était insubdivisé en continent. Et puis, vous savez, dans des régions, aussi, je peux dire, les organisations sous-régionales, il y a des organisations. Moi, je me suis plus focalisé dans les organisations continentales qui est
l'Union africaine.
Il devrait, à mon avis, collaborer avec un État si
tout à
fait. C'est vrai voir ensemble que de voir un État.
Voilà. Donc vous vous inscrivez déjà à fond en disant que la procédure, en fait, la Chine qui prend des engagements avec les États africains et devait plutôt passer par l'organisation, la plus grande organisation du continent, c'est-à-dire l'OIA. Merci beaucoup, Gaston, d'avoir appelé. Deo Gracias, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour et merci pour la parole accordée.
Quel est votre commentaire?
Oui, je vois déjà que c'est une moquerie pour l'Afrique une fois de plus. Hein. Parce que, imaginons, 60 milliards avec combien de pays africains? La RDC gagnera combien pour développer son économie? Construire les barrages d'Inga, construire les routes en Ituri, construire les routes dans toutes les provinces. Vous voyez déjà que ça, pour notre pays, ça ne va pas tenir. Je vois plutôt que il fallait que nos États s'organisent eux-mêmes pour pouvoir développer leurs économies et non pas compter sur des dons. Car la Chine elle-même, depuis qu'elle a commencé, elle a développé ces dictons-là, tu me donnes un poisson, tu vas manger un seul jour et tu m'apprends à pêcher, tu n'auras plus jamais faim. Ça a prouvé suffisamment que la Chine a travaillé pour être ce qu'elle est maintenant. Alors, je ne vois pas que 60 milliards peut aider l'Afrique à quoi. on a déjà reçu des dons, des fonds monétaires internationaux, de la Banque mondiale, mais qu'est-ce que cela, qu'est-ce que ces fonds ont fait en Afrique, effectivement, dans notre pays, par exemple. Vous voyez, un pays désorganisé où il y a des commissions à tous les niveaux, un milliard, ça va arriver. Combien pour que ça puisse construire une là. Déjà, vous allez voir qu'au niveau du ministère, un tel aura un million, un autre un million, et puis on aura quoi pour construire même ces îles-là dont on nous parle. Donc, je ne vois pas que ces fonds-là vont faire quelque chose pour nous, Africains. C'est juste
voilà.
Que la Chine veut s'imposer comme une puissance économique, mais il n'y a rien vraiment qu'on peut espérer de ces fonds. Là,
pour merci beaucoup, Deo Gracias. Ça pour vous, vous n'espérez rien dans ces financements de la Chine, parce que ça ne représente rien, et vous décriez également la corruption qui gangrène au fait le système politique à RDC. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gérard, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio France.
Votre réaction, Félicien?
Oui, il est vrai que l'énergie et les routes contribuent de beaucoup au développement d'un pays. Et notre pays a des problèmes de routes et de l'énergie. Et nous avons besoin de chercher des capitaux pour développer ce secteur. Si la Chine est en mesure de nous donner les moyens, cela va beaucoup nous aider. Mais moi, je pense que l'Afrique et en général, et les Congo en particulier, doivent chercher à s'affranchir de tout cet amalgame de l'aide financière qui vient de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, et maintenant c'est la Chine. Et ils doivent commencer à chercher des voies et moyens pour voir comment la Chine, qui hier, en 1960, quand nous accédions aux indépendances en Afrique, quel était le niveau de la Chine, quel était le niveau de vie des gens en Chine, pour qu'aujourd'hui la Chine soit en mesure de nous prêter de l'argent ou de venir investir chez nous. Des investissements qui, en réalité, n'apportent pas grand-chose parce que tout ce qui est construit, c'est détruit, les femmes qui seront là et rien. Et puis, comme on vient de le dire, l'invité, il nous apporte pas grand chose du côté
création d'emplois, impact sur les budgets.
Nous avons appris ici que le Congo sera un chantier, Kinshasa sera un chantier, les gens vont trouver du travail, les Chinois sont arrivés, le chômage est toujours là, et ceux qui utilisent, le pays qu'ils utilisent, ne peuvent même pas avoir un salaire et qui peut détenir des bouts du mois. Alors, on va continuer comme ça, et comme si nous ne pouvons pas créer des richesses, nous ne pouvons pas avoir des budgets qui peuvent nous aider à avancer, alors que nous avons aussi les nécessaires pour arriver à ce niveau de la Chine, mais il nous manque la volonté politique, il nous manque que la vraie gouvernance, il nous manque que des hommes et des femmes qui sont décidés de changer les choses dans leur pays. Parce que nous avons toutes les richesses naturelles aussi que la Chine a. Il n'y a pas un miracle à faire, il n'y a qu'à travailler. Et si surtout on met les sérieux dans tout ce que nous faisons, et qu'on puisse combattre les antivaleurs, l'impunité et tout ça, je pense que l'Afrique peut décoller, et les Congo en particulier. Mais pourquoi nous sommes en train toujours de marcher sur les sentiers battus et nous ne pouvons pas, nous,
voilà.
Dire un jour...
Donc si je comprends bien, Félicien, vous rejoignez donc Gaston qui parlait tout à l'heure d'un État qui devrait en principe négocier la coopération avec l'organisation de l'Union africaine au lieu de le faire de manière séparée avec chaque État. Alors donc là, finalement, là, vous proposez que l'Afrique elle-même puisse monter des stratégies, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la sous-région ou encore de la région, pour arriver finalement à définir des projets qui pourraient répondre à ce qu'on puisse relever les défis de développement qui attendent au fait les continents. Merci beaucoup, Félicien. Alors, on revient à vous, professeur Boboa Kayembe. D'abord, la réaction de Gaston. Chine avec comme un État, Chine seul comme un État et qui aide les autres.
Oui, mais c'est une réaction qui n'est pas tellement pertinente, parce que vous savez que De pays à pays, il y a des commissions mixtes, ce qu'on appelle les commissions mixtes. Donc chaque pays peut suggérer la tenue d'une commission mixte avec la Chine. Mais maintenant, des réunions au niveau continental, ou pourquoi pas? Parce que l'Union africaine elle-même était partie prenante à cette réunion-là avec la Chine. Et à ce conclave-là, bon, disons que la Chine, c'est un pays de combien de milliards d'habitants? C'est plus de 1,5 milliard d'habitants. Donc, c'est comparable aussi à l'Afrique. Hein. C'est comparable à l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas concevoir une réunion entre la Chine et les États africains. Mmh. Mais je voulais aussi parler un peu de ce qu'a dit Félicien, qui parle d'un sursaut national. Il faut un sursaut national. Nous devons compter sur nos propres efforts. Il a raison. En partie, dans ce sens que si on prend un pays comme les États-Unis d'Amérique, les États-Unis ont une dette de 2500 milliards de dollars vis-à-vis de la Chine. La Chine a acheté des bons du trésor des États-Unis à raison de 2500 milliards. Peut-être maintenant, on est déjà arrivé à 3000 milliards. Donc, un pays ne peut pas ne vivre que de ses recettes internes. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tous les pays dans le monde, les pays qui vont de l'avant, prennent quand même des financements à l'extérieur auprès d'autres pays qui ont des surliquidités dans ce domaine-là. Mais comptez sur nous, oui. Quand je vois, par exemple, des gens qui sont en train de construire des immeubles à Kinshasa, je me dis quand même qu'il y a de l'argent qui existe à Kinshasa, mais cet argent n'est jamais mobilisé par les services du fisc pour entrer dans la caisse de l'État. Ils n'arrivent jamais à mettre en place des stratégies pour mobiliser cet argent-là. Donc, on peut faire les deux, à la fois compter sur nous-mêmes et à la fois, pourquoi pas, lorsque c'est possible, pouvoir emprunter sur le marché international ou bien sur le marché national.
La traçabilité de ces coulages des recettes, c'est ça le problème.
Bon, il y a des méthodes, hein, c'est prévu dans la loi. Hein. Nous avons déjà parlé du droit fiscal et je pourrais même revenir pour qu'on en parle encore. Comment arriver à capter ces recettes-là? C'est prévu par la loi. Mais je ne sais pas, il y a une sorte d'asthénie de service du fisc qui fait qu'il n'arrive pas. Parce que les gens construisent, on voit quelqu'un qui fait 15 niveaux, qui fait 10 niveaux, qui a de l'argent. Il a payé combien au fisc? Il n'a rien payé. Donc, il y a des méthodes pour pouvoir l'obliger. Donc, il y a les impôts indiciaires. Mm-hmm. Hein, par rapport aux indices que quelqu'un manifeste dans sa vie, on peut lui faire une déclaration. On peut l'amener à faire une déclaration fiscale pour payer tel montant au fisc. Mais ils font jamais ça, c'est ça le problème.
Voilà, on va poursuivre ce débat, le dernier quart d'heure de cette émission. Avec vous, Ernest Matadi, Pichu Akulungongo et Clément Abokungu, bienvenue à vous tous. Ernest, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Pierre, et bonjour à notre invité. Je crois que on a parlé de projet intégrateur. Je voudrais parler un peu du paragraphe qui est le Congo central, dans l'ensemble Congo, RDC. Si je prends le programme intégrateur, on a visé Inga pour donner de l'énergie. Mais le constat qu'on peut faire d'emblée, c'est de constater que dans notre pays, souvent, ceux qui négocient se partagent le revenu de réussite des négociations et la population ne se retrouve pas en dernière minute. Et dans le cadre de Inga ici, le peu d'énergie que nous avons, on trouve que l'énergie est insuffisante pour servir toute la population, mais les grands prêtres s'occupent de récupérer par les départs uniques. Et la grande majorité ne se retrouve pas. Et ceux qui ont fait l'utilisation en grande majorité ne payent pas nécessairement, et on va s'abattre par ceux qui subissent même des délestages pour récupérer l'argent pour l'entreprise. Mais ici, au Congo central, en dehors de l'agriculture qu'on pouvait intervenir, parce que l'agriculture a bien utilisé les routes pour ramener la grande production vers le grand centre de consommation. Mais nous avons un grand projet intégrateur qui pourrait aussi intéresser le ministre qui est parti représenter le pays, c'est le travail ou le port profond. Mm-hmm. Vous voyez, à Marzali et Boma, il n'y a pas assez de navires qui viennent avec le marchandise. Mais si cela arrivait au niveau des bananes,
on devait encore rencontrer autant, il a fui.
Oui, mais Ernest, mais pour ne pas vous couper, le projet de port en eau profonde a été déjà a trouvé déjà un preneur. Vous avez vu les ministres des Transports faire les déplacements là-bas avec ces investisseurs qui se sont annoncés, disons, pour démarrer des travaux très prochainement.
Bon, c'est parmi les progrès,
les projets intégrateurs.
Nous ne pouvons pas. Moi, je suis au Congo central, mais vous voyez souvent dans la ville de Matadi, où il y a les espaces terribles dans les quartiers qui passent les nuits et les mois dans les noirs. Alors, il faut réellement.
La
population de l'ensemble.
Oui, si vous vous prêchez pour votre chapelle, Kindou fait autant, Ituri. Alors, est-ce qu'il n'était pas nécessaire aujourd'hui, dans la conférence, par exemple, de gouverneurs, que chaque gouverneur puisse exposer les défis de sa province, afin de d'intégrer au fait cette aide de la Chine qui est annoncée et de répartir de manière équitable ce financement.
Mais lorsque le gouverneur présente leur programme de campagne pour lui, à la fin, les députés qui sont centrés contre cela acceptent le projet bien après. Ils disent encore que c'est la.
Mais il n'avait pas les moyens, le problème des moyens.
Le financement.
Merci.
Alors, lorsqu'on t'a la main, moi je pensais qu'on allait refuser cette main de la Chine parce que nous avons dit à chaque jour, croyons, nous sommes suffisamment avancés, nous sommes indépendants, adultes, et peut-être pas trop vieux, mais vieux. Pour comprendre et développer. Nous avons une population. Je pense, moi, sincèrement, qu'il fallait remettre la population au travail comme les Chinois l'ont fait. C'est la population qui est trop libre, les Congolais.
Notre invité avait dit tout à l'heure, c'est ça le côté, la faiblesse au fait de cette coopération. Manque de création d'emplois, il n'y a aucun impact sur le budget des États. Donc c'est encore un autre débat. Merci Ernest. Pichou, vous êtes à Kulungongo, toujours au Congo central. Bonjour Pichou.
Bonjour, Pierre.
Quelle est votre contribution, Pichou?
En fait, je suis un peu préoccupé par rapport à beaucoup de soucis que nous avons dans ce pays. Nous croyons fermement que le Congo est vraiment à genoux. Par le simple fait qu'il y a un bureau, c'est-à-dire qu'il y a des conseillers qui entourent les chefs de l'État. Des propositions, des élaborations, des projets. C'est-à-dire que si nous focalisons notre unique identité sur le financement qui vient de l'extérieur, je crois que nous commettons beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas mauvais comme l'invité l'a dit. C'est bien. Quand nous avons des dettes extérieures, ça ne nous pose pas de problème. Mais où ça va ces dettes que nous prenons de l'extérieur? Nous prenons l'exemple, mon ami de Matadi venait de considérer un problème sérieux. De l'électrification. Nous sommes dans le Bas-Congo, nous avons deux barrages, deux grands barrages, mais il se pose un sérieux problème où le télestage est devenu mode de vie dans le Congo central, là où se trouve le barrage le plus grand, parmi les plus grands d'Afrique. Vous voyez ? Donc, il y a un problème sérieux au niveau du pays. Alors, si nous voyons, si nous allons sur les infrastructures routières, nous avons des problèmes. Moi, j'ai vécu à Pugna, je connais le barrage de Boudana. Ça peut alimenter tous les tours. Mais allez voir dans quel état se trouve ce barrage. Si nous venons au niveau de la Tchopo, le barrage de Tchopo, au niveau de Kisangani, il y a un grand travail qui devait se faire là-bas. C'est vrai, l'argent peut venir. Mais où ça va aller? Est-ce que ça va atteindre les objectifs assignés avec les Chinois? Aujourd'hui, les Congo ne peuvent pas espérer tellement avec cet argent qui vient de l'extérieur. Nous avons des projets, nous avons des choses qui peuvent nous fournir beaucoup d'argent, plus que même l'argent qui sera financé par les Chinois. Donc c'est vraiment déplorable qu'au jour d'aujourd'hui, nous comprenons que nous n'avons encore rien fait, nous n'avons encore rien compris sur ce que nous sommes dans le monde entier. Les matières que nous avons ici dans ce pays qui peuvent, même la Chine peut s'agenouiller, donc la Chine n'est pas seulement intérêt à nous donner de l'argent, mais la Chine peut s'agenouiller pour retirer le plus que même les constats, les ordinateurs et beaucoup de choses.
Oui, alors Pichou, ceux qui disent que la chose elle est plutôt simple quand nous allons tous consulter les programmes nationaux de développement social de la RDC qui a été présenté il y a deux ans par le chef de l'État par son directeur de cabinet. Je crois que tout a été dit, c'est pratiquement la Bible lorsqu'on annonce des travaux au niveau des infrastructures routières et également au niveau de l'énergie et pourquoi pas, comme vous venez de dire, certains défis qui sont à relever au niveau des provinces. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui d'aller finalement consulter simplement ces programmes nationaux au lieu d'annoncer simplement les barrages d'Inga qui va absorber pratiquement une bonne partie de ces financements?
Non, c'est-à-dire que le barrage d'Inga, c'est important, c'est très bien, c'est un outil qui nous servira de électrifier pratiquement une partie du Congo, mais ce n'est pas ça la priorité. C'est-à-dire, nous devons comprendre que nous avons plusieurs priorités au Congo. Hormis l'électrification de plusieurs villes, nous avons un problème de routes.
Voilà. Merci beaucoup, Pichou. Alors, Clément, vous êtes à Bokungu, on va terminer avec vous. Bonjour, Clément.
Oui, bonjour, Radio Kapi.
Quelle est votre contribution?
Oui, ma contribution, d'ailleurs, je suis très très content de cette thématique. Mais le problème, lorsque j'avais suivi le professeur a souligné vraiment les éléments un peu importants que cet argent, s'il faut tout simplement mettre pour la construction de barrages d'Inga, ça va prendre beaucoup de temps. Et vous voyez que même l'idée n'est pas mauvaise, parce que le développement d'un pays, d'ailleurs le premier indice, c'est l'électricité. Mais moi, je propose qu'on puisse un peu donner pour la construction de barrages une grande partie, mais une grande partie, comme l'avait souligné le professeur, transférer ça dans les infrastructures routières. Si nous prenons par exemple, je prends notre cas. Jusqu'à la Deuxième République, il y avait des bateaux courriers qui reliaient Kinshasa, Mbandaka, Boende et pourquoi pas Bukungu, Ikela. Et jusqu'à présent, donc, souvent, quand on fait la statistique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun bateau qui fait Kinshasa, Boende, Bukungu, Ikela, il n'y a que des baleiniers. Et à tout moment, quand on fait la statistique, il n'y a que des cas, donc, des naufrages à tout moment et il y a des pertes en vie humaine. Et souvent, donc, le gouvernement essaye un peu d'endurcir le cœur. Il ne prend pas ça vraiment comme une priorité. Et à chaque mois, il y a des morts d'hommes sur le fleuve Congo.
Merci beaucoup.
Alors, moi, je propose qu'on puisse aussi prendre un peu d'argent
et investir dans...
arranger ou bien réparer quelques courriers qui traînent encore à l'ONATRA pour que ça puisse au moins servir cette ligne-là.
Voilà, je crois que prochainement on reviendra encore autour de Clément, merci.
Les produits février pour les amener dans le centre de consommation.
Voilà, merci beaucoup.
Et la deuxième préoccupation, prenons par exemple construire. Je prends l'exemple.
Voilà, Clément, on n'a plus assez de temps. Clément, merci beaucoup.
Suivi le gouverneur.
Voilà, on n'a plus assez de temps. Parce qu'on va conclure quand même dans notre émission. Je crois que prochainement on viendra, on va faire un débat sur les bateaux qui a été Kokolo d'ailleurs, qui a été réhabilité. On n'en parle plus, on ne sait pas. Selon les dernières informations, ça se trouverait à Kisangani ou encore ici à Kinshasa. On ne sait pas, on va vérifier et puis on fera les débats. Merci beaucoup. Alors on va conclure avec vous, professeur Boabo Akayembe. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui?
Bon, en conclusion, je pense que une coopération est toujours une bonne chose. Une coopération ne nous empêche pas de continuer à fournir des efforts internes pour pouvoir mobiliser des ressources à l'intérieur. Donc le Congo est invité à fournir ces efforts-là pour mobiliser ces ressources. Ensuite, vous avez parlé du programme de développement de la RDC qui a été présenté par le cabinet du chef de l'État. Donc il faut se référer à ce programme chaque fois qu'on doit assister à des réunions comme celle-là. Parce que tout le monde a montré ici que la question des infrastructures routières et autres, c'est une question fondamentale. Mais également, le secteur industriel, on peut développer le secteur industriel grâce à la Chine, comme le fait l'Éthiopie, par exemple. Donc, je crois que le risque, c'est de pouvoir ne pas tirer quelque chose de ces 60 milliards de dollars. Il y a un risque de ne rien tirer si on n'est pas préparé à atteindre ce degré de maturité. Et ce degré de maturité implique que nous ayons des études avec des aspects techniques du projet, des aspects financiers du projet. À ce moment-là, nous pouvons être capables de tirer quelque chose.
Voilà, professeur Bois Kayembe, nous rappelons que vous êtes professeur d'université et aussi analyste économique par rapport à cette question de la Chine, du sommet Chine-Afrique, qui a la Chine donc a annoncé 60 milliards de dollars américains d'investissement pour les États qui ont atteint les niveaux de la maturité dans ces investissements. Alors, il se pourrait que la RDC puisse aussi absorber une partie de ces financements, mais il va falloir que les gens réfléchissent ou fassent des analyses, des études au préalable pour au fait ressortir des projets, des intégrateurs qui pourraient aider la population à trouver son compte. Merci beaucoup, une fois encore, professeur, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec les auditeurs. On ne sait ce qui se passe, sans pour autant dire merci à Héritier Sidiakala, à Nico Kalambay et à Pierre Lamégie, à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, supervisée par Nico, par Martin Sebujangwe. Et un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Merci de rester avec nous.